Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La réforme de la SNCF, plébiscitée à l'Assemblée nationale hier, 450 votes pour, seulement 80 députés ont dit non. Mais pas question de classer l'affaire pour les cheminots qui entament la quatrième séquence de grève aujourd'hui. Analyse du décalage entre la stratégie politique et sociale avec Ludovic Piétenu dans un instant.
Et en Allemagne, les salaires de plus de 2 millions de fonctionnaires vont augmenter de 7,5%, Sophie.
Résultat d'un accord entre les syndicats et le gouvernement fédéral hier. Alors quels sont les secrets du succès? Ce sera l'objet du billet éco d'Annabelle Grelier à 7h12.
Et puis comment faire baisser les tensions à Notre-Dame-des-Landes?
La préfète des Pays de la Loire rencontre une délégation de prosadistes aujourd'hui pour tenter de renouer le dialogue. Précision de notre envoyée spéciale Véronique Robérotte dans un instant.
La diplomatie avance entre Donald Trump et Kim Jong-un.
Donald Trump lui-même qui en a parlé hier. Il parle de contacts directs à des niveaux très élevés pour la future rencontre entre les deux dirigeants, on l'entendra. Et puis 4 ans après l'enlèvement des lycéennes de Chibok au Nigeria, seulement 15 des 112 jeunes filles officiellement retenues par Boko Haram seraient toujours en vie, selon les révélations d'un journaliste nigérien.
Et puis la question du jour dans une quinzaine de minutes, Sophie, Bachar el-Assad n'a plus la Légion d'honneur, mais au fait quels critères d'attribution, quels critères de retrait? On posera la question à l'historien Bernard Richard.
Circuler, il n'y a rien à voir, c'est ce que semble vouloir dire le vote hier à l'Assemblée nationale, adoptant très largement le cadre de la réforme de la SNCF par 450 voix pour, contre 80 seulement, alors que le quatrième round de cette grève perlée commence aujourd'hui pour 48 heures à la SNCF. Le trafic devrait être très perturbé avec un TGV sur 3 seulement annoncé, ainsi que 2 TER et Transilien sur 5. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, récuse tout passage en force sur cette réforme et promet de la mener jusqu'au bout, donnant le sentiment que l'exécutif et la majorité En Marche n'ont que faire de la contestation sociale. Ludovic Piétenu.
C'est une étape décisive qui est franchie, se félicitait hier la ministre des Transports. Avec ce vote solennel à l'Assemblée, la réforme avance et le gouvernement semble dire peu importe le bruit de la rue ou des syndicats. Le député de Gironde, La République En Marche, Benoît Simian, a travaillé pendant 10 ans pour la SNCF. Cet élu de la majorité a voté hier, bien sûr, en faveur de ce texte.
Depuis le début, avant même que la concertation ait commencé, les professionnels du désordre ont appelé à la grève. Il y a des tables rondes qui n'ont de cesse de se tenir. Donc là maintenant, il y a eu le débat démocratique. Il y a beaucoup de politique politicienne, il y a du dogme dans la posture de certains syndicats. Personne ne s'y trompe. En plus, il y a des échéances pour eux électorales, parce qu'il y a des élections professionnelles à la SNCF dans quelques mois. Donc moi, je les appelle à sortir du dogme. Ça, les Français n'en veulent plus. Ça ne marche plus.
Dans l'opposition, on a voté contre uniquement sur les bancs de la gauche. C'est le cas de Christophe Bouillon, député Nouvelle Gauche de Seine-Maritime. Pour lui, ce vote n'est qu'un élément de plus dans une grande opération de communication.
On a le sentiment que le gouvernement il cherche à jouer l'opinion publique contre les cheminots. Il y a un totem, personne ne l'ignore, c'est la question du statut des cheminots. Puis il y a l'idée, quelque part, que les cheminots français, c'est l'équivalent des mineurs anglais à l'époque de Thatcher. En se payant un peu les cheminots, on a le sentiment que on aura la qualification du plus grand des réformateurs.
Ce député socialiste dénonce beaucoup de gâchis dans la méthode. C'est mot pour mot le même avis exprimé hier par un député de droite, Les Républicains, Jean-Marie Sermier, même si son groupe a finalement approuvé le texte.
Ludovic Piétenu, le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire passera entre les mains des sénateurs dans un peu plus d'un mois, avec un vote au Parlement définitif au plus tard début juillet, espère le gouvernement. Alors que la CGT Énergie appelle aujourd'hui les électriciens et les gaziers à rejoindre le mouvement des cheminots et ce jusqu'au 28 juin prochain. Le syndicat réclame l'organisation d'un nouveau service public de l'électricité et du gaz. Parmi les actions envisagées, des baisses de production mais aussi des coupures ciblées en direction des entreprises qui licencient. Nous partons maintenant à Notre-Dame-des-Landes, alors que la situation reste explosive sur le terrain. La préfète des Pays de la Loire doit rencontrer une délégation d'occupants de la ZAD à 14h30 cet après-midi. Les précisions sur place de notre envoyée spéciale Véronique Robérotte.
Même si la main tendue de la préfète Nicole Klein continue, disent-ils, à être armée de grenades, trois zadistes accompagnés de 5 autres militants anti-aéroports ont accepté de rencontrer celle qui les a trahis. À 2 reprises, ils ont déjà rencontré la représentante de l'État. C'était en février et mars dernier. Échange infructueux entre la préfète et des zadistes qui n'entendent pas renoncer et une gestion collective des terres de Notre-Dame-des-Landes, quand l'État leur propose de régulariser individuellement leur situation. Préalable cette fois à toute concession, la fin des hostilités sur la ZAD, Isa s'exprime au nom des zadistes.
Nous, on veut bien faire un dernier effort pour voir si ça peut avancer, parce qu'il y a aussi qu'il faut absolument que ce massacre s'arrête. Ce bocage, il aura été préservé de la destruction d'un aéroport. Il est en train d'être détruit et empoisonné par des armes chimiques, des trous de grenades, on a des blessés, enfin... À un moment donné, ça va vraiment mal se finir. Il faut qu'on voit si c'est des vraies conditions de dialogue ou si on est sur, en fait, un ultimatum par la terreur avec des grenades qui continuent à tomber tous les jours. La préfète, elle a répété 50 fois les mots apaisement et sérénité. Je peux vous assurer que vivre ici, c'est pas exactement serein et apaisé. Il faut qu'on soit dans un climat qui soit propice au dialogue et que ce soit un véritable dialogue.
Un dialogue qui s'établira dans le temps, disent aussi les zadistes. Or, la préfète leur a donné jusqu'au lundi 23 avril pour déposer leur demande de régularisation individuelle, un ultimatum que la délégation reçue aujourd'hui en préfecture espère bien faire reculer.
Véronique Rebérotte, l'envoyée spéciale de France Culture à Notre-Dame-des-Landes. À l'Assemblée nationale, le débat très tendu, commencé lundi, se poursuit aujourd'hui sur le projet de loi très controversé portant sur l'asile, l'immigration et l'intégration. Alors, afin de mieux comprendre les enjeux pour les demandeurs d'asile, Léa Guedj a rencontré une avocate spécialisée qui accompagne ces parcours de vie fracturés.
Première étape de la demande d'asile, monter un dossier. Il faudra l'envoyer dans les 21 jours à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Parmi les pièces à délivrer, les prétendants à l'asile doivent expliquer ce qui les a poussés à quitter leur pays et à craindre d'y retourner. C'est ce qu'on appelle le récit de vie.
Et je devrais expliquer tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai vécu, quand j'ai dû fuir mon village, quand ma famille a explosé, quand j'ai dû courir dans la nuit, quand j'ai dû ensuite aller dans des camps où j'étais reçue dans des conditions absolument dramatiques, quand j'ai décidé de reprendre la route.
Véronique Picard-Masson est avocate spécialisée dans le droit d'asile. Il lui faut souvent plusieurs heures pour écouter ses histoires. À l'écrit, elles doivent tenir sur une à six pages. Le tout en français et sans interprète professionnel, on se débrouille avec l'aide d'un bénévole, d'un ami, d'un parent, voire d'un enfant pour une traduction pas toujours très fiable.
Ce qui avait été écrit en français, c'était pas du tout ce qu'imaginait le demandeur d'asile. Il s'était confié à quelqu'un qui soit était de bonne foi mais n'arrivait pas à écrire ce qu'on lui disait et donc avait bidouillé quelque chose en disant je lui rends service, je lui écris un récit, ne l'avait pas retraduit évidemment dans la langue du demandeur d'asile et quand on traduisait vraiment, il disait « Ah ben non, c'est pas ça que je lui ai dit, il a extrapolé, ou il a inventé, ou il a créé. »
Si l'officier rejette la demande, on peut alors former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. À l'audience, un interprète est accordé au demandeur. Mais avec la réforme du droit d'asile, l'avocate estime que la barrière de la langue risquerait de poursuivre ses clients tout au long de la procédure.
Le projet de loi prévoit aujourd'hui qu'une fois qu'ils auront énoncé la langue dans laquelle ils s'expriment, eh bien ça va les suivre tout au long de la procédure. Or, tous les avocats que vous verrez ici vous donneront des exemples de clients dont on a découvert qu'ils ne parlaient pas la langue qu'on leur avait attribuée, qui, soit pour faire plaisir, parce qu'ils veulent absolument se conformer à ce qu'on attend d'eux, vont dire je parle français. Et on découvrira au fur et à mesure de la procédure que ce n'est pas la langue dans laquelle ils sont à l'aise.
D'ici la fin de la semaine, la loi devrait être soumise au vote des députés.
Léa Guedj pour France Culture. La proposition de loi sur le secret des affaires arrive, elle, au Sénat ce matin. Transposition d'une directive européenne adoptée il y a 2 ans, le texte renforce la protection des informations des entreprises. ONG, lanceurs d'alerte, journalistes et syndicats dénoncent un risque majeur pour la liberté d'informer. On y reviendra dans le détail à 8h dans le journal de Clara Lecoq-Réal sur France Culture.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h08, c'est la suite du journal de Sophie Delpont. Un pas de plus vers des relations diplomatiques entre Washington et Pyongyang en vue d'une rencontre directe entre Donald Trump et Kim Jong-un.
Le président des États-Unis a déclaré hier que cette rencontre avec son homologue nord-coréen pourrait avoir lieu au plus tard début juin.
Nous avons commencé avec la Corée du Nord des discussions directes à un très haut niveau, je dirais même à un très très haut niveau avec les Nord-Coréens. Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de bonne volonté, que des choses bien sont en train de se dérouler. Mais comme je dis toujours, on verra bien ce qui se passe. Parce qu'à la fin, c'est le résultat qui compte, pas qu'on réfléchisse à organiser une rencontre ou qu'une rencontre ait lieu.
Donald Trump hier soir en marge d'une rencontre avec le Premier ministre japonais. Une traduction assurée par notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. Le secrétaire d'État désigné, Mike Pompeo, aurait secrètement rencontré Kim Jong-un il y a quelques semaines. En parallèle, la Corée du Sud discuterait avec la Corée du Nord dans le but d'amender l'armistice de 1953. Séoul et Pyongyang pourraient créer une structure plus pacifique afin d'assurer la sécurité dans la péninsule, selon les mots d'un haut responsable de la présidence sud-coréenne. Les deux pays doivent tenir leur premier sommet depuis plus de 10 ans, le 27 avril, dans la zone démilitarisée qui sépare les deux pays. Au Nigeria, des dizaines de lycéennes de Chibok enlevées en 2014 dans le nord du pays sont-elles mortes en captivité? 4 ans après leur rapt, c'est ce qu'affirme un journaliste nigérian ayant participé à des négociations avec Boko Haram. Cette affaire qui a provoqué l'indignation de la communauté internationale reste encore très opaque, Bertrand Galichet.
Seules 15 des 112 jeunes filles de Chibok officiellement retenues par Boko Haram seraient toujours en vie, d'après ce journaliste nigérian. Sur Twitter, il assure que la plupart des lycéennes sont mortes entre des tirs croisés et les bombardements des forces de sécurité qui tentaient de les secourir. Les autorités, qui disent ne pas avoir cette information, contrôlent strictement tout ce qui touche à cette affaire. Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique.
Là où on dit qu'il y a un certain nombre de ces lycéennes serait retenu, c'est dans les îles du lac Tchad. Ce sont des îles totalement impénétrables où se serait réfugié l'un des leaders de Boko Haram, Cheikh Tiao. C'est pas étonnant. Entre février 2015 et très récemment encore, ces îles sont bombardées parce que l'armée nigériane n'arrive pas à pénétrer dans cette zone.
Un enjeu majeur pour le pouvoir nigérian en raison du retentissement mondial de cet enlèvement qui avait déclenché le mouvement Bring Back Our Girls. Le président Muhammadu Buhari, lui-même originaire du nord du pays, a fait de la lutte contre Boko Haram une affaire personnelle. La semaine dernière, il a annoncé son intention de briguer un nouveau mandat en 2019.
Bertrand Galichet.